Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Cécile Capdeville, nutritionniste du sport, ayant collaboré pendant 2 ans au sein de la cellule médicale de l'Olympique de Marseille. Avec elle, nous avons évoqué son parcours, sa passion pour le sport et la nutrition, les bonnes règles nutritives pour les sportifs avant et après la performance, ainsi que la nécessité d'allier rigueur alimentaire et plaisir pour éviter une trop grande frustration. Nous sommes également revenus sur son travail à l'OM, la nécessité d'une bonne hydratation dans la récupération et la sensibilisation des footballeurs à une bonne nutrition et également de leur entourage. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Cécile Capdeville. Bonjour Cécile Capdeville et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour, merci.
Alors dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué, alors soit par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que vous avez pu ressentir? J'aime bien dire que c'est votre Madeleine de Proust footballistique à laquelle vous aimez repenser de temps en temps.
Oui, bah écoutez, en fait, le match qui m'a le plus marqué, en fait, je garde un très très gros souvenir du dernier match de la saison, en fait, qui nous a qualifiés en Ligue des Champions, parce que c'est quand même si je suis marseillaise d'origine et que j'ai toujours suivi de près ou de loin l'Olympique de Marseille et que le titre de champion d'Europe en 93 nous a tous marqué. Personnellement, comme j'ai été la nutritionniste durant cette saison jusqu'en juin 2022, pour moi, c'est un plus gros souvenir de cette qualification de dernière minute avec voilà, le staff de Sampaoli. C'est une explosion de joie et je suis super contente de l'avoir vécu. Ouais, c'est pour moi, c'est celui-là.
Parce qu'il y a une implication personnelle, j'imagine qu'au niveau émotionnel, ça doit décupler les choses.
Ben oui, parce que même si on est beaucoup à avoir un travail dans l'ombre, ben mine de rien, on se sent toujours un petit peu avoir porté sa petite pierre à l'édifice. Et puis cette qualification, on se la doit à tous, quoi. Donc oui, c'est une joie partagée et j'étais très heureuse d'être sur le terrain ce jour-là, quoi, au stade en tout cas.
Alors, vous avez fait du sport au niveau national, du volley, si je ne me trompe pas. Comment s'est faite la transition avec votre métier de nutritionniste? Est-ce que c'était déjà quelque chose que vous aviez bien en tête lors de votre pratique du sport, ou est-ce que c'est venu un petit peu après? Est-ce que c'était en parallèle, un peu plus tard? La prise de conscience s'est faite quand? Quand a démarré cette passion-là?
Non, j'étais pas du tout prédisposée à faire nutritionniste. J'avais, en tout cas, oui, moi, toujours passionnée par le sport. Donc, j'ai commencé par plusieurs activités. J'ai toujours fait plusieurs activités. Mais après, c'est vrai que je me suis découvert cette passion pour le volley. J'ai évolué pendant des années au volley jusqu'en National 2. Et c'est vrai que, non, au départ, moi, ce qui m'importait le plus, c'était vraiment de faire du sport. Et c'est pour ça que j'avais choisi des études STAPS, donc Faculté des sciences du sport, pour devenir prof de sport. Parce que moi, j'avais qu'une envie. Moi, mes parents, quand ils me demandaient, je disais, je veux faire du sport. Alors, je n'étais pas assez bonne pour faire du sport, du volleyball professionnel. Donc, je me suis dirigée dans des études de prof de sport pour être professeure de PS à l'éducation nationale. Et c'est comme ça que j'ai commencé la fac. À la sortie de mes études, en fait, j'ai rencontré un médecin qui créait un centre de médecine du sport, un centre de médecine préventive. Et c'est là que j'ai commencé à travailler dans le monde professionnel. J'ai rencontré cette personne extraordinaire qui s'appelle le docteur Marblet. Je le cite parce que je lui dois énormément. Et en fait, j'ai commencé avec lui, si vous voulez, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu à l'époque, on faisait des emplois jeunes.
Oui, bien sûr.
En fait, c'était des emplois aidés par l'État, où comme justement le centre était une création, il n'avait pas de trésorerie, c'était un centre sous forme associative, donc il bénéficiait de subventions. Et créer un poste pour m'embaucher, il avait trouvé le moyen de m'embaucher sous contrat emploi jeune, donc c'était une bonne façon et pour lui et pour le centre. Et j'ai commencé par faire tout et n'importe quoi. Donc, j'étais sortie de la fac de sport avec un niveau licence STAPS. J'étais partie en maîtrise, mais sans trop savoir vraiment ce que je voulais faire. J'avais plus trop envie de faire prof de sport. Et en tout cas, je me suis dit, pourquoi pas aller postuler dans le centre de médecine du sport. Il m'a dit, écoutez, je suis intéressée par votre CV et tout ça. Donc, il m'a pris. Mais au début, j'ai fait un peu de secrétariat. Je l'assistais. Je commençais à faire un peu un rôle d'infirmière. Je préparais plein de choses. Parce qu'en fait, c'est un centre où on reçoit des sportifs. Et ces sportifs-là viennent s'évaluer pour savoir, pour connaître leur capacité physique à l'effort. C'est pas un centre de traumatologie où l'on soigne, c'est un centre de prévention. En fait, le sportif vient pour savoir s'il est en bonne santé. Donc ça, il y avait une partie consultation avec le médecin, il y avait une partie diététique avec une diététicienne, et il y avait une partie aussi élaboration des tests d'effort. Vous savez, les tests, les VO2 max que l'on fait. Et là, on décelait leur capacité d'endurance, de résistance, etc. Et c'est vrai que toutes ces années de physiologie, d'anatomie que j'avais appris à la fac des sports, m'ont servi parce que j'ai mis tout ça en pratique avec le médecin. Et du coup, j'aide le médecin à faire des interprétations de ses capacités physiques chez le sportif. Mais à côté de ça, j'ai toujours été passionnée par ce que faisait la diététicienne. Et donc, j'assistais aussi aux consultations de diététique pendant qu'elle interrogeait le sportif. En fait, je m'intéressais un peu à tout. Et c'est vrai que y a tout qui me passionnait en réalité. Et en fait, au fur et à mesure, le médecin-chef qui m'avait embauchée, donc à l'époque, pour revenir un petit peu en arrière, sous contrat emploi jeune, en fait, les emplois jeunes étaient embauchés pendant 5 ans. Et après, en général, je ne sais pas si vous vous souvenez, souvent, on les mettait un peu à la porte. C'est-à-dire qu'on avait bien profité des aides de l'État. Et après, au revoir, merci, on en prendra peut-être un autre, on verra, ça nous aidera, parce qu'ils avaient des aides, les entreprises, en fait. Et en fait, moi, ce qui m'avait vraiment, j'avais eu confiance en cette personne, ce médecin, parce qu'il m'a dit, moi, j'ai l'intention de pérenniser le poste. Et j'ai senti que je pouvais lui faire confiance. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai rencontré en 99. Mon poste a été créé officiellement en 2000. Et en fait, je travaille toujours avec lui. Donc, en fait, mon poste a été pérennisé. Il m'a vraiment fait évoluer. Mais en l'occurrence, pour revenir sur la nutrition, il m'a un jour conseillé. Il m'a dit, Cécile, puisque vous êtes passionné par l'alimentation, il me dit pourquoi ne pas passer un diplôme de nutrition sportive, parce que des diététiciennes, il y en a beaucoup, mais des diététiciennes du sport, des nutritionnistes du sport, il n'y en a pas tant que ça. Et comme c'était quelqu'un qui côtoyait énormément les sportifs, il s'était rendu compte qu'il y avait une énorme demande. Et c'est comme ça qu'en 2014, j'ai cherché une école pour préparer un diplôme de diététique et nutrition sportive, parce que aussi, il faut dire qu'en faisant du sport, toujours étant une bonne mangeuse, j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien faire les apéros, quoi, comme tout le monde, on va dire. Je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas trop coller avec certaines pratiques. Et on ne peut pas manger n'importe quoi avant d'aller faire du sport, en tout cas. C'est ce qui m'a un peu poussée aussi à apprendre comment bien manger, pour bien pratiquer une activité physique, en tout cas, et pouvoir performer, quoi.
D'accord, ok, très bien. C'est intéressant de se dire que finalement, c'est aussi le lifestyle, le mode de vie qui vous a aussi interrogé sur les bonnes pratiques à avoir pour concilier à la fois la pratique du sport, et on sait ô combien c'est important dans l'équilibre au quotidien de beaucoup de personnes, et aussi le fait de, bah, quand on est passionné de sport, il faut aussi savoir être performant.
Ah oui, oui, c'est vrai que... Après, c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique. Je n'ai pas fait les choses à l'envers. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. Je n'ai pas toujours été diététicienne, nutritionniste, en tout cas. Voilà, en tout cas, c'est comme ça. C'est mon parcours et c'est la passion qui m'a toujours un peu poussée. Et d'ailleurs, c'est un peu... Si, quand j'y repense, après toutes ces années aujourd'hui, je pense que mon leitmotiv, c'est plus... c'est la passion qui me pousse. Ce n'est pas ni choisir une profession parce que c'est confortable, ni parce qu'elle rapporte des sous, mais parce que voilà, je suis sortie des études, j'ai commencé avec un SMIC, même si voilà, il n'y a pas de sous-métier, je prenais des rendez-vous, j'avais l'impression de faire du secrétariat et tout ça. Mais finalement, quand on aime les choses et qu'on travaille à côté pour arriver à un diplôme ou en tout cas évoluer, on y arrive, mais...
Le chemin n'est pas toujours simple, en fait.
Non, non, c'est vrai, c'est vrai.
On va beaucoup parler de football, évidemment, dans cet épisode, mais vous n'avez pas seulement été nutritionniste auprès de l'équipe première masculine de l'OM, vous avez aussi collaboré avec la Fédération française de triathlon. À quel point les sports et donc la différence d'effort, parce qu'on est vraiment sur des sports très différents, va mener des différenciations sur le régime alimentaire du sportif?
Alors, oui, c'est vrai que quand je suis rentrée à la Fédération française de triathlon, c'était en 2017, où j'étais, d'ailleurs, ça faisait pas longtemps que j'étais diplômée de la nutrition sportive, et j'ai eu de grosses pressions hein, sur les épaules, parce qu'on m'a directement confié l'équipe de France de triathlon, qui préparait les JO de 2020-2021, au final, voilà, à Tokyo. Et c'est vrai que j'ai découvert de véritables machines, si on peut dire. Le triathlète, complètement différent du footballeur ou d'un autre sportif, c'est vrai qu'il se lève le matin, il doit se jeter dans la piscine à 5-6 heures du matin, il est déjà debout parce qu'il a une journée où voilà, il va faire une heure et demie de natation, ensuite il doit revenir, il doit s'alimenter. D'ailleurs même, il doit s'alimenter avant la piscine. Certains s'alimentent, d'autres pas, parce qu'ils ont peur d'être trop lourds, ils ont peur d'avoir une mauvaise digestion, donc c'est un peu difficile. Ensuite, c'est vrai que c'est... Ils reviennent de la natation, ils doivent s'alimenter parce qu'après, ils enchaînent avec 3-4 heures de vélo pour s'entraîner comme un vrai triathlon, en fait. C'est ce qu'ils font tous les jours. Et après, ils reviennent, ils doivent manger, ils doivent dormir pour repartir sur une heure et demie de course à pied. Et ça, tous les jours, quasiment 6 à 7 jours sur 7. Donc, ce qui représente entre 30 et 35 heures d'entraînement par semaine. La difficulté chez le triathlète, c'est de pouvoir leur apporter les apports nutritionnels pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire à faire toute cette dépense. Mais en même temps, pouvoir digérer, en fait, avoir une bonne digestion, parce que c'est pas évident de manger avant d'aller faire 3 heures de vélo, de manger avant d'aller faire la piscine, d'enchaîner avec la course à pied. Et en fait, c'est vrai que c'est une grande difficulté chez le triathlète que de bien s'alimenter et de ne pas avoir de carence, en fait.
Si on parle d'une mesure que les gens, pas forcément extrêmement au courant de la nutrition pour un sportif, connaissent, parce qu'ils le maîtrisent aussi pour eux à titre individuel, sur le nombre de calories par jour qu'un sportif doit avoir pour être performant et brûler en même temps évidemment la même chose. Quelles sont les différences entre un triathlète? Alors on peut parler en mode compétition, parce que je pense que c'est le plus intéressant et ce qui permet d'avoir au moins un espèce de maître étalon identique en période de compétition entre un triathlète et un footballeur.
Aujourd'hui, c'est vrai que, alors, on dit qu'en moyenne, des fois, il faudrait qu'il mange en tout cas 5000 calories par jour, souvent un triathlète, pour pouvoir être à la hauteur. Mais en réalité, aller faire ingurgiter 5000 calories par jour à un triathlète, mais c'est impossible, c'est indigeste, c'est hyper compliqué. Et pour revenir sur votre question, aujourd'hui, on parle de moins en moins, on va dire, en calories. Parce que si on vous dit... En fait, on parle plutôt en densité nutritionnelle, si vous voulez. Parce que si on dit à une personne, voilà, tu dois manger 1500 calories par jour et 1000 calories à ce repas. Si vous donnez 1000 calories de saucisson, C'est pas pareil que si vous donnez 1000 calories entre des pâtes au blé complet avec un apport de un blanc de poulet accompagné avec de légumes. Si vous voulez, le saucisson n'a pas du tout la même densité nutritionnelle. Alors oui, il va être calorique, il va donner la même quantité de calories que ce qu'il faut, mais en fait, il a une densité nutritionnelle dégueulasse. Excusez-moi. Donc en fait, aujourd'hui, on parle de moins en moins, en fait. Mais c'est vrai que les gens, ils sont toujours sur ces histoires de calories avec toutes les applications là, qui sortent. Voilà, j'ai fait ça, tant de calories, j'ai dépensé, donc je dois manger tant. Voilà, encore une fois, si vous mangez des cacahuètes et des chips, c'est pas la qualité. C'est surtout la qualité qui compte. Mais oui, il y a une différence entre un triathlète et un footballeur. Et voilà, et même entre chaque sport, ouais, il y a des différences de calories. On brûle pas les mêmes calories à n'importe quelle dépense physique.
Pendant presque 2 ans, vous avez été dans la cellule médicale de l'OM au poste de nutritionniste. Est-ce que c'est pas un des rôles les plus difficiles dans un club auprès des footballeurs? Parce que votre mission, finalement, elle peut générer de la frustration chez des jeunes hommes, souvent, allez, on va dire de moins de 30 ans, même si on peut prendre une fourchette un peu large entre 16, il y a maintenant des jeunes de 16 ans qui arrivent en équipe première, et puis on peut aller jusqu'à 36, 37 ans. Donc finalement, c'est une échelle assez large, mais on va dire au moins de 30 ans, à qui on explique ou même on réexplique comment bien se nourrir, et que surtout, on va finalement associer votre rôle à des privations. D'aliments en plus qui sont appréciés par cette tranche d'âge-là. Je pense à tout ce qui est à base de sucre, évidemment, que ce soit du solide ou du liquide, les sodas, etc. Est-ce que c'est pas un rôle difficile dans un club parce que vous allez générer forcément de frustration?
Ouais, c'est vrai que c'est pas un rôle facile parce que bon, déjà, on mange toute la journée. Et c'est vrai que quand on arrive et qu'on a affaire à, ouais, comme vous avez dit, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, il faut justement, en fait, j'ai toujours essayé de faire en sorte d'éviter ce sentiment de frustration, parce que quelle que soit la personne, que ce soit un sportif, une personne lambda ou le footballeur professionnel, je n'aime pas provoquer de la frustration. Et en fait, en tout cas, quand je suis arrivée au club et que j'ai essayé d'enlever, parce qu'il y avait par exemple des aliments qui étaient mis à disposition et que j'ai essayé de, je les ai enlevés parce que pour moi ils étaient trop en fait pas adéquats. Par exemple, je vais parler de la notion d'index glycémique. Par exemple, des céréales au petit déjeuner avec un index glycémique très haut ou en tout cas avec pas de bonne qualité. Je les ai enlevés, mais j'ai toujours remplacé par autre chose où ils puissent trouver une valeur gustative intéressante, en tout cas, pour justement éviter ce sentiment de frustration et leur dire tu remplaceras ça par ça et tu trouveras aussi ton compte, entre guillemets. Mais il est clair que le footballeur, vous savez, c'est pas du tout comme un triathlète. Vous arrivez footballeur, c'est vrai que c'est bon, c'est un sportif, j'ai pas dit l'inverse, mais c'est vrai que c'est un grand technicien, on va dire, et un footballeur, il va vous dire mais moi, si j'ai envie de manger 2 pains au chocolat tous les matins et que je suis deuxième du championnat, je vais continuer à manger ces 2 pains au chocolat. Or, peut-être que à 18 ou 20 ans, ça passe, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, ça passe un peu moins. D'une part, parce que les calories, on les encaisse plus de la même façon, hein, surtout arrivé entre 35 et 40 ans. Déjà, le métabolisme, il change. Puis de deux, ce type d'alimentation, je parle des pains au chocolat, hein, c'est un exemple que j'ai pris, les viennoiseries, ça peut être les bêtises qu'on trouve à des machines, là, distributeurs automatiques, les Mars, les Bounty, les machins. Ça, sur le plan digestif, il n'y a rien de pire que pour se provoquer un déséquilibre. Et alors, avant l'effort, c'est totalement déconseillé, quoi. Donc, c'est sur ce genre de détails, effectivement, qu'il faut travailler avec le footballeur et que, oui, il a fallu leur faire comprendre, en tout cas, en arrivant au club, que, oui, il fallait enlever et que ce soit des sucreries comme ça ou des boissons inutiles, en tout cas, même si on dit, oui, je me dépense et tout. Il y a des boissons d'effort qui sont faites pour ça et il y a d'autres choses qui vaut mieux, en tout cas, éviter, en tout cas.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que souvent, il n'y a rien de plus facile que la preuve par l'exemple. Je me souviens de Vitorino Hilton, qui était défenseur à Montpellier et qui a joué jusqu'à 40 ans, et qui lui disait, en fait, c'est simple, c'est à partir de 30 ans, J'ai arrêté les sodas, j'ai arrêté tous les trucs comme ça, parce que je me suis rendu compte que si je voulais durer, lui, visiblement, jusqu'à 30 ans, ça lui posait pas de problème. Il devait consommer un peu de soda, de sucreries, etc. Sauf qu'après, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il arrête s'il voulait aller jusqu'à 32, 33, 34, 35, puis finalement jusqu'à 40 ans.
Et oui, mais je trouve que justement, 30 ans, c'est un âge, c'est hyper important chez le sportif, je trouve. Vraiment, 30 ans, on dit que c'est l'âge mature, en fait, où le sportif, il acquiert une maturité. Et en fait, c'est difficile parce que le footballeur, c'est vrai qu'on le prend, on le prend très jeune, on le fait sortir d'un club, on le met dans un centre de formation, il n'a pas eu forcément l'éducation nécessaire, l'éducation nutritionnelle appropriée, on ne lui a jamais expliqué quoi que ce soit. Et en plus, voilà, il n'a pas cette notion. Mais attention, hein, j'ai vu aussi des adultes qui ne l'avaient toujours pas. Hein. Enfin, des adultes, pardon. Oui, des personnes âgées entre 20, 30, qui approchent la trentaine. Et je me rends compte que c'est malheureux parce qu'il faut quand même absolument former ces jeunes dès le plus jeune âge, ces jeunes, même si on ne sait pas qu'ils vont être sportifs de haut niveau. Mais l'éducation nutritionnelle aujourd'hui, je trouve qu'on manque de communication, d'information. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes en surpoids. Mais il faut absolument sensibiliser le jeune enfant dès tout petit, et le sportif de haut niveau le plus rapidement possible. Parce que oui, comme certains en prennent conscience, peut-être à 30 ans, c'est bien, mais avant, ça serait mieux. Ça fait partie de l'optimisation de la performance, la nutrition. Tout comme le sommeil, tout comme la gestion du stress, l'hydratation, les étirements. Il n'y a pas seulement l'entraînement qui va faire qu'il va jouer au haut niveau, hein, c'est tout ce qui se passe autour. Et c'est vrai que si le sportif ne prend pas conscience de ça, ben, il risque pas de sortir du lot, je pense. Ou alors, ouais, ça va durer qu'un temps.
Pour revenir sur l'idée de privation et qui va justement avec le plaisir, les neurosciences ont mis en évidence plusieurs mécanismes qui relient l'alimentation et le plaisir, justement sur le fait que dès qu'on mangeait quelque chose qu'on aimait, il y avait des mécanismes de plaisir qui se déclenchaient. Comment réussir à proposer des aliments qui font plaisir aux joueurs? Alors, j'imagine que si on leur propose des brocolis à la vapeur, je suis pas sûr que ça déclenche un immense plaisir chez eux. Mais comment réussir à la fois à être suffisamment strict dans le fait d'avoir des aliments qui soient très bons pour eux, pour leur performance, et aussi avoir quand même, pour éviter ce domaine de frustration, des aliments qui leur permettent quand même de déclencher ces fameux récepteurs de plaisir et qui finalement amènent de la bonne humeur. Si on est de bonne humeur, on s'entraîne peut-être mieux aussi, on est plus agréable, on est plus enclin à faire des efforts, etc.
Oui, c'est vachement intéressant ce que vous dites parce que effectivement, pour avoir été aussi une gourmande, me rendais compte que c'est vrai que bon, il suffit qu'on soit un peu fatigué, stressé ou énervé, on a tendance à se retourner vers le sucre, cet aliment plaisir qui amène. Et les neurosciences l'expliquent très bien, dans une seconde, un coup de dopamine, mais dans la seconde qui suit, quand on a ingurgité le sucre, un coup de dopamine, sauf que les études montrent que quelques minutes après, allez, à maximum 30 minutes après, on a le corps dans un état de fatigue, de léthargie, voire même de dépression, et ça a été prouvé par des études qui font que, ben, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Pourquoi j'ai mangé ça? Je ne me sens pas bien. Mais ça, je pense qu'au plus on avance dans l'âge et au plus on prend conscience de notre corps, en fait. Et quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Et chez le sportif, pour revenir au footballeur, c'est vrai que qu'est-ce qu'on met en place pour éviter tout ça? En fait, le principe de la chrononutrition, je trouve, est vachement intéressant. C'est quoi la chrononutrition? En fait, c'est de donner certains aliments à certains moments de la journée où l'organisme en fait va être capable de réceptionner, on va dire, ces aliments. Par exemple, le matin, il est préférable de manger gras et salé que sucré. Voilà, donc le petit déjeuner dont on a tant parlé, le lait, les céréales, le jus d'orange, les viennoiseries, n'en parlons pas, ça c'est à bannir, hein, entre guillemets. Alors de temps en temps, oui, vous faites plaisir, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier la notion de plaisir. Mais on va dire 5 jours sur 7, 5 à 6 jours sur 7, le petit déjeuner doit être composé de produits protéinés, salés, comme du jambon, du fromage, des œufs. Qu'est-ce qui va se passer quand on va manger protéiné salé? On va aider déjà à synthétiser un neurotransmetteur qui est le starter de la journée et qui s'appelle la dopamine, en fait. On va aider grâce aux acides aminés que l'on trouve dans les protéines, donc dans le jambon, dans le fromage, dans les œufs. Ça aide à synthétiser. contrairement au sucre des céréales, au sucre de la pâte à tartiner, au sucre du miel et de la confiture, où là, ah oui, ça va me faire du bien, mais très vite, je vais être fatiguée. Très vite, je l'assimile tellement vite que je vais avoir une hypoglycémie réactionnelle derrière qui va enclencher une sensation de faim. Et c'est ainsi que je vais remanger derrière. Pour peu que je rattrape un biscuit derrière, ben, en fait, je vais avoir le même phénomène physiologique. Et c'est comme ça que les enfants, ils n'arrêtent pas de grignoter. Enfin, les enfants, on l'a tous fait, hein, attention. Mais et c'est comme ça qu'on aura le grignotage intempestif, parce qu'en fait, le sucre, ouais, ça fait du bien, mais ça ne cale pas. Donc, en fait, le petit déjeuner, il doit être plutôt salé pour être bien calé sur la journée. Et à contrario, par exemple, au goûter, voilà. Moi, j'aime bien dire que c'est important de manger un goûter, qu'on soit petit ou grand. Et là, de se faire plaisir avec du sucre, mais du bon sucre. C'est-à-dire bah, du sucre, du chocolat. Alors oui, du chocolat noir de préférence. Ça ne fait pas rêver aux plus jeunes hein, quand on ne connaît pas trop les le chocolat noir, on préfère le chocolat au lait. Ce n'est pas grave, on peut toujours commencer par leur dire de prendre du chocolat au lait, si c'est leur petit plaisir de la journée. Et pour éviter, par exemple, des pics glycémiques pour l'organisme, eh ben on rajoute un fruit à côté. Voyez, on tempère avec du sucre du fruit, on met un petit laitage, on met un yaourt. Voilà, on ne mange pas que du sucre, que des gâteaux, que du chocolat Milka. Enfin, je parle Milka, voilà. Vous voyez ce que je veux dire?
Tant pis pour eux. Non, mais on va citer d'autres marques. Côte d'Or,
oui, voilà.
Galak.
Voilà, c'est ça, parce qu'on s'en fiche. Oui, je ne veux pas du tout dire ça.
Non. Comme ça, non, mais après, on en donne plein et voilà, chacun aura compris
veut,
de toute
voilà,
façon le message.
Ça.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, concrètement, on parle. C'est clairement le sucre, l'ennemi du sportif. On parle beaucoup d'aliments gras, etc. Alors, j'imagine que c'est pas meilleur. Hein,
mais
le sucre, c'est clairement une catastrophe, en fait.
Oui, bah, en fait, c'est une catastrophe, oui, pour le sportif et même pour tout le monde, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, on a dit, ouais, il ne faut pas manger gras, etc. Alors qu'en fait, on est revenu. On a besoin de gras. On en a besoin. On a besoin pour la fluidité des membranes. On en a besoin pour plein de choses, pour les articulations, pour la prévention des maladies cardiovasculaires, mais du bon gras. Hein. Donc, c'est pas le gras du beurre, de la crème fraîche. Voilà, c'est des bonnes huiles. Manger des bonnes huiles avec vos vinaigrettes. C'est manger voilà, des oléagineux, des amandes, des noix, des noisettes en guise de collation. Ça, c'est du bon gras. C'est manger des poissons gras, manger de l'avocat, manger du saumon, des choses comme ça. Et le sucre, effectivement. Le pourquoi, en fait, c'est un poison. Parce que déjà, quand on mange, tout ce que l'on mange est sucré, en fait. Et tout ce que vous allez acheter au supermarché cache du sucre. Et c'est ça, le problème, en fait. C'est que l'industrie agroalimentaire, en fait, c'est quoi le sucre? C'est un exhausteur de goût, c'est une matière première qui n'est pas chère. Donc, en fait, on en rajoute pour un oui, pour un non. Vous achetez une sauce tomate, il y a du sucre dedans. Vous achetez un bocal de cornichons, ben, il y a du sucre dans l'eau du bocal de cornichons. Enfin, franchement, on n'a pas besoin. C'est pour ça que après, tous les petits sucres, enfin le sucre rapide que l'on se rajoute derrière, ben, ça va faire une quantité trop importante de sucre dans l'organisme. Et on sait qu'une quantité trop importante du sucre chez le sportif, si elle va dépasser sa dépense énergétique, eh bien cette quantité en plus de sucre dans l'organisme va se transformer en gras dans le corps. Et le sportif, s'il se traîne une masse grasse trop élevée, voilà, au-delà de ce qu'il faut, au-delà de son poids de forme, au-delà de voilà, ben ça va lui jouer des torts sur sa performance, en fait.
Et vous avez le sentiment aujourd'hui que les sportifs, ils ont pleinement conscience de ça, parce que peut-être qu'il y a, allez, on va dire 10 ans, on commençait vraiment à en parler et peut-être que la prise de conscience n'était pas encore faite. Aujourd'hui, avec tout ce qui se dit, avec l'arrivée de nutritionnistes dans les clubs, avec des discussions de plus en plus présentes au quotidien sur ces sujets-là, est-ce que vous avez l'impression que ça y est, l'éducation, elle est faite
Malheureusement, non. Pas du tout, parce que non. Alors, il y en a certains, ils sont hyper sérieux là-dedans. Ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils fassent attention et que voilà, une fois de temps en temps, une à deux fois par mois, ils se font plaisir. Et moi, je les encourage à se faire plaisir, à se faire des restos en famille une fois de temps en temps. Parce que, encore une fois, ouais, moi, c'est vrai que par mon passé aussi, je sais très bien, j'adore me faire plaisir, j'adore aller manger dehors. Mais après, voilà, moi, je ne suis pas sportif de haut niveau, je ne suis pas footballeur professionnel. C'est ce que je leur dis. Hein, j'ai dit, maintenant, c'est à toi à voir. Hein, j'ai dit, ça ne dure pas toute une vie, hein, le sport professionnel. Donc, si ce n'est pas maintenant que tu mets toutes tes chances de ton côté, parce que le corps, c'est ta machine, c'est ton outil de travail, quoi. Hein. Et je veux dire, si tu ne l'entretiens pas comme il faut, ben voilà. Mais non, malheureusement, pas tout le monde en est conscient de ça. Je trouve ça un peu dommage. Et malheureusement aussi, pourquoi ? Parce que je trouve aussi que, vous l'avez dit, hein, on commence à avoir de plus en plus de nutritionnistes. Avant, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'était le docteur qui faisait, le médecin du club qui faisait tout. Mais le pauvre médecin, il a assez de boulot pour en plus aussi s'occuper des menus de la semaine, de leur dire ce qu'il faut qu'il mange avant, pendant, après, surveiller ce qu'il a dans son sac ou pas quand il s'en va à un déplacement. Enfin bon, voilà.
Justement, on va faire une ou deux mises en situation. Vous venez d'évoquer ce qu'il faut manger enfin, rapidement avant, après les performances, les matchs et les rencontres. Si on imagine les joueurs le jour du match, comment est composé le repas principal quelques heures avant la rencontre ? Alors, je ne vais pas citer d'horaire parce qu'on va y revenir après, mais quand il y a des horaires à 13h, 15h, 17h, 21h, c'est très différent. Mais le dernier repas avant la performance, de quoi il est constitué principalement ?
Alors, le dernier repas, c'est... Il y a une règle déjà, bon, la règle de l'horaire, même si vous allez en parler après, c'est hyper important de la respecter pour le temps de digestion, déjà. Voilà, donc c'est la règle des 3 heures avant.
3 heures, faut que, je me permets de vous couper, il faut que le repas soit fini 3 heures avant la performance.
Ah oui, oui, oui. Ça, c'est la règle des 3 heures avant. Ensuite, il faut qu'il soit constitué d'une part de glucides, hein, quel que soit le sport. Ben là, je parle du foot, mais bon, pour le triathlète, c'est pareil, ou la personne qui fait de la course à pied ou autre. Voilà, une portion de glucides avec un index glycémique plutôt bas, c'est-à-dire qu'on fait une différence entre les pâtes blanches, les pâtes complètes. Le riz, c'est pareil. Le riz est plutôt basmati, un index glycémique plutôt bas. Ça permet de faire une meilleure réserve de glycogène. On sait que le glycogène, c'est le carburant du muscle. Donc, toute la semaine aussi, l'intérêt, c'est de mettre des aliments à index glycémique bas. Donc, pour finir, le repas avant match, oui, une portion de glucides, une petite portion, pas énorme, de légumes. Ça, c'est vrai qu'il bon un petit peu, mais et puis des légumes plutôt digestes, si vous voulez, un peu des courgettes cuites. Alors, je n'ai pas dit des courgettes à l'eau, parce que ça aussi, ça ne fait pas rêver, mais des courgettes bien assaisonnées, on va dire, ou des carottes, ça peut être des carottes au miel, ça, c'est pas mal. Et une portion de protéines, mais alors là, attention à la protéine, elle doit être aussi très, très, très digeste. Donc, c'est une portion de protéines viande blanche ou du poisson blanc. Pas de poisson gras le jour de match, pas de saumon, pas de viande rouge surtout, très long à digérer, indigeste pour l'organisme avant le match, quoi. Donc voilà, c'est simple, c'est des glucides, un petit peu de légumes et une portion de protéines. Après, il y a un petit laitage, voilà, et du fruit. Et c'est pareil pour le fruit. Il faut penser, si vous voulez, à choisir des fruits digestes. Et plus on va vers un fruit mûr ou cuit, mieux ce sera. Parce qu'il sera beaucoup plus digeste qu'un fruit cru, on se rend pas compte, mais on met plus longtemps à digérer une pomme qu'une pomme cuite ou qu'une compote.
Ok, ouais, donc il vaut mieux privilégier, oui, des compotes à ce moment-là pour les fruits cuits.
Ouais. D'ailleurs, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, même pendant le match, mais ça peut-être que ça vous intéresse aussi après de savoir.
Bien sûr. Bah, on peut passer au match maintenant. Alors, c'est difficile parce que c'est pas comme les cyclistes, par exemple, qui eux ont la possibilité de s'alimenter à peu près quand ils veulent. C'est-à-dire qu'ils partent avec des poches et des choses dedans et ils peuvent continuer à pédaler en mangeant un petit snack, voilà, une compote, etc. Pour le footballeur, c'est plus compliqué.
Malheureusement, sauf en période de canicule où on leur fait des coupures, finalement, c'était intéressant parce qu'ils pouvaient à la fois boire et boire des boissons sucrées, parce que justement, qu'est-ce qu'on fait pendant le match, en fait ? Alors déjà, avant le match, ce qu'on peut se permettre de faire, pour la personne qui, je dis un exemple, va se sentir peut-être avec un petit coup de mou, un petit coup de faiblesse, des fois, vous savez, la pression avant match, cette montée d'adrénaline, peut provoquer aussi des hypoglycémies, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire une petite boisson, ce qu'on appelle une petite boisson d'attente ou la ration d'attente. Donc là, vous pouvez faire une boisson sucrée, une boisson d'effort. Et cette même boisson, elle peut servir aussi pour la mi-temps, c'est-à-dire une boisson sucrée. Enfin, après, j'ai pas dit le jus d'orange.
Un truc maison, c'est-à-dire c'est pas un coca, quoi.
Ouais, voilà, c'est pas un coca, c'est pas un soda, c'est pas le jus d'orange du supermarché, c'est une boisson... voilà, spécifique aux boissons énergétiques du sportif, quoi. Après, vous avez plein de marques qui s'occupent de ça. On peut aussi faire une boisson d'effort, hein. Je peux même vous donner un exemple, hein. Mais c'est vrai que voilà, une boisson comme ça, sucrée, avec à la mi-temps aussi, on peut donner des... Alors, il y a des pâtes de fruits, il y a des fruits secs, il y a Il y a des fruits frais, mais digestes. Je vous donne l'exemple, par exemple, pendant l'été, on met pas mal de pastèques, vous savez, des fruits, beaucoup, des fruits d'eau. L'hiver, on met de l'ananas, on met des morceaux d'orange à la mi-temps. Voilà, c'est très vite avalé, assez vite digéré. Après, encore une fois, je donne des exemples comme ça, mais sachez que, je répète toujours, la nutrition, c'est individuel à chacun. Certaines personnes ne vont pas supporter l'orange, d'autres vont très bien la supporter. Encore une fois, le tube digestif, il n'est pas le même chez tout le monde. Donc ça, ce sont un peu des généralités que je dis. Mais l'intérêt de ce qu'il faut retenir pour une collation en plein milieu du match, c'est une boisson sucrée, parce que le sucre est vite avalé dans l'eau et voilà, donc ça va être vite absorbé et c'est intéressant. Et ce sont des aliments aussi vite avalés et digérés, comme des fruits mûrs, très mûrs, comme des bananes très mûres, ou des morceaux d'ananas, de pastèques, des abricots secs, des fruits secs, parce que c'est très, très sucré. C'est un index glycémique très haut. Et c'est juste à ce moment-là qu'il faut pas s'en priver, quoi.
Je pensais aussi à l'après-match, parce que justement, il y a deux choses qui m'ont un peu marqué. Il y a pas mal de clubs où on voit... alors, je sais pas quelle est la part du plaisir et la part de... Enfin, plaisir-récompense, on va dire. Et la part de... c'est quand même des éléments qui ont un apport nutritif intéressant après l'effort. Il y a la fameuse pizza, parce que je l'ai déjà vue dans des clubs en France, je l'ai vue dans des clubs en Italie. Donc, je voulais savoir à peu près quelle était la part de plaisir-récompense après une victoire et la part de vraiment un apport nutritionnel intéressant. Et puis, je repense au cyclisme. Alors, c'est des efforts très différents qui sont beaucoup plus longs, etc. Mais je vois régulièrement, pour prendre un exemple, le Tour de France, à l'arrivée, on donne des sodas aux coureurs du Tour de France.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Après, votre question, elle m'étonne pas. Et c'est vrai que je suis aussi partagée parce que pour avoir fait pendant toute cette saison un petit peu le tour des joueurs à chaque fois, j'ai toujours été aussi partagée par justement j'ai envie de leur faire plaisir et il faut faire attention au repas d'après match, au repas d'après effort. Encore une fois, le footballeur il va être différent du triathlète, mais c'est vrai que alors oui, on a pu mettre en place des pizzas, on a pu mettre en place des repas plaisir comme des on va dire des kebabs, ouais, des espèces de sandwichs maison avec un pain pita, avec une viande plutôt travaillée par le chef cuisinier, avec des légumes frais dedans, vous voyez, ce genre de petits sandwichs qui peut faire plaisir. Et ça, c'est quand même bien parce que justement, on essaye tellement d'être dans le contrôle, entre guillemets, toute la semaine qu'on a besoin aussi de ce repas plaisir après
c'est
le match.
Soupape, hein. C'est une soupape
oui.
De décompression,
et
en
donc,
fait.
Donc oui, on peut aussi faire plaisir avec des boissons. Si ce n'est pas là qu'on se fait plaisir, franchement, ça ne l'est plus. Je vais donner quand même une petite aparté parce qu'il y a une différence, par exemple. Le triathlon, c'est vrai que à la limite, il finit son triathlon et pour avoir suivi l'équipe de France, ou le lendemain, par exemple, il doit remettre ça et parce que il y a, vous savez, le triathlon en relais mix. Par exemple, un athlète a fini son triathlon samedi, le dimanche, il doit refaire un triathlon en relais mixte. Et ça, honnêtement, c'est pas un conseil que je leur donnerais que de se faire plaisir en mangeant des pizzas, des tacos ou des kebabs. Franchement, la digestion, non quoi. Peut-être que le footballeur, le lendemain du match, il a un jour off et qu'il peut se reposer et qu'après, il peut repartir sur une journée où il fait attention et va repartir à l'entraînement le lundi, je sais pas, ou un jour après. Mais moi, je dis que ça dépend encore de ce qu'on va faire quoi, le lendemain. Il faut laisser un peu du lest parce que si on laisse trop, si on les met trop dans le contrôle, après, j'ai peur qu'ils fassent aussi n'importe quoi de leur côté. Quoi.
Ouais, donc il y a quand même une grande part de... Enfin, en tout cas, si on doit faire une balance, la balance est plus proche de l'intérêt du plaisir et de faire plaisir aux joueurs plus que de l'intérêt nutritionnel.
Ah oui, oui, oui. Après, encore une fois, vous savez, dans l'équipe, moi, il y en a qui me disaient, moi, ça ne me fait pas du tout kiffer la pizza. Donc, des fois, on faisait des pizzas, par exemple, et il y avait certains joueurs qui ne voulaient surtout pas manger de pizza, quoi. Parce que, un, ils faisaient très attention, et que deux, ça ne le faisait pas, voilà, ils ne prenaient pas plus de plaisir. Donc, il y avait toujours du blanc de poulet, des crudités. Il y avait certains joueurs, non, ce n'était pas leur truc. Donc, et après, effectivement, non. Il n'y a pas d'intérêt nutritionnel à manger de la pizza, hein. D'autant plus que certains, je vais aborder un autre sujet, mais voilà, je sais pas, certains sont très sensibles sur le plan de l'intestin et qui sont aussi un peu intolérants au gluten. Manger de la pizza, ça vous fait plus gonfler le ventre et ça provoque plus des troubles digestifs chez certaines personnes que du plaisir, en tout cas.
On a commencé à parler de l'hydratation tout à l'heure, qui est essentielle pour la récupération et pas seulement. C'est-à-dire que un sportif, c'est toute la semaine qu'il doit bien s'hydrater. On voit d'ailleurs les joueurs, une fois qu'ils quittent le terrain, qu'ils sont remplacés, par exemple, on voit un membre du staff qui tend une ou deux bouteilles, parfois même deux bouteilles. On voit que c'est un liquide qui ressemble à de l'eau pure, enfin l'eau naturelle, et puis un autre où c'est un peu coloré, etc. C'est quoi? C'est des boissons avec du sucre et des minéraux, c'est
tout
ça
à qui, fait. Ouais, ouais.
Qui permettent d'avoir un apport direct?
Ce sont des boissons, effectivement, on donne en général 500 ml d'eau et 500 ml de boissons sucrées, composées en général de sucre maltodextrine, qui est plutôt un sucre à index glycémique moyen, et effectivement avec des minéraux, le potassium, le magnésium, voilà, des choses qui vont aussi aider à la perte et du sel aussi, parce qu'il faut savoir que vu qu'il transpire beaucoup, il faut compenser avec la perte en eau et donner des eaux salées. Et d'ailleurs même, pour donner aussi une autre indication, après l'effort, ce que l'on conseille absolument, c'est de boire des eaux gazeuses, parce que justement, il y a, si vous voulez, le côté sodium qu'on trouve dans la Vigiceinture, la Saint-Célestin, enfin, n'importe, il y a quelques marques qui sont intéressantes, c'est vrai, parce qu'elles sont beaucoup plus riches en sodium et riches aussi en bicarbonate, en fait. Pourquoi ? Parce que quand vous faites produisez de l'acide lactique à l'effort, pour tamponner cet acide lactique, les bicarbonates aident à tamponner cet acide lactique que l'on trouve dans des eaux gazeuses. Et c'est vrai que ça aide à la récupération musculaire, en fait.
Et ça, pour peut-être que les gens se rendent compte de... en fait, dans la transpiration à l'effort, on ne perd pas que de l'eau.
Ah oui, on perd du sel, oui.
Et justement, j'avais fait un épisode avec Benoît Delaval qui est... préparateur physique avec Marcelo Bielsa et qui avait donné l'exemple, c'est simple, allez courir une heure, enfin peut-être pas forcément une heure, mais une demi-heure, s'il fait chaud, vous allez très vite transpirer et mettez un t-shirt de couleur sombre, un t-shirt noir par exemple, vous allez voir se dessiner autour des taches de transpiration du blanc, voilà, et qui montre que c'est pas que de l'eau en fait.
Eh oui, c'est pour ça que la composition des boissons est hyper importante. Eh oui, les minéraux et que l'on retrouve dedans, il faut vraiment regarder la composition, en fait, les étiquettes. Faut pas prendre n'importe quoi, hein.
Dans le foot, dans tous les secteurs, on tend vers une individualisation, une approche individuelle de la performance. Donc, il y a évidemment tout ce qui est entraînement sur le terrain, pour les tireurs de coups francs, pour ceux qui vont recevoir le ballon, l'individualisation aussi dans la préparation physique, dans les soins, évidemment dans la nutrition. J'imagine, peut-être un peu bêtement, mais qu'un gardien et un joueur de champ qui vont jouer 90 minutes n'auront pas la même dépense énergétique, parce que le gardien, clairement, si un joueur de champ fait aujourd'hui en moyenne entre eux, ceux qui courent le moins vont faire aux alentours de 8 km, ceux qui courent le plus vont faire quasiment 14 km, entre 12 et 14 en tout cas, la dépense énergétique n'est pas la même, et par conséquent, ce qu'ils doivent manger en avant-match et ce qu'ils doivent manger en après-match ou boire aussi peut-être, sont différents. Et il y avait un deuxième facteur qui m'intéressait. C'est puisque tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'après 30 ans, on n'a pas la même facilité de digestion et qu'on n'élimine pas aussi facilement les 300 grammes qu'on a pris ou les 500 grammes qu'on a pris. Est-ce qu'un joueur de 18 ans ou un joueur de 35-36 ans, on leur donne aussi la même chose et la même quantité d'aliments ?
Non, justement, le travail du nutritionniste, c'est de sensibiliser chaque footballeur. Et c'est vrai qu'on en avait... un panel assez large. Je pouvais avoir des jeunes qui n'avaient même pas 18 ans, qui arrivaient du centre de formation, comme vous avez dit, hein, le gardien entre 30 et 40 ans. Et c'est vrai que, déjà, voilà, à des postes différents et à des âges différents, on n'a pas du tout le même métabolisme. Le jeune, il va carburer, il va un métabolisme qui consomme énormément, alors qu'au plus on avance dans l'âge, et au plus le métabolisme ralentit. Et en plus, si voilà, on n'a pas du tout... le même poste et pas du tout la même dépense énergétique, on n'a plutôt pas intérêt à manger la même chose, même si on fait une restauration collective. Après, le travail de la nutritionniste, du ou de la nutritionniste, c'est de sensibiliser chaque personne à lui dire tu devrais mettre plutôt ça et ça dans ton assiette. Hein. Peut-être que le jeûne, on va miser sur une portion de glucides beaucoup plus importante que la personne âgée entre 30 et 40 ans. On va plutôt lui conseiller mais plus de légumes que de glucides pour équilibrer justement un petit peu voilà, la notion d'index glycémique, toujours pareil, parce que la portion de légumes va baisser l'index glycémique, vous savez, des glucides. Et c'est vrai que si on met... Aujourd'hui, si vous mettez une grosse portion de riz et trois courgettes, c'est pas équilibré dans l'assiette. Hein. Et si vous avez une petite dépense ou pas de dépense du tout, cette portion de riz, c'est du sucre qui va se transformer en gras dans le corps et vous allez le traîner. Et c'est du surplus inutile, quoi. Donc, sur le terrain, après, on se déplace moins vite, on a moins d'explosivité, on a... Voilà, et c'est vrai que notre travail, c'est de sensibiliser à chaque poste, que ce soit pour les apports, que pour la récupération. Hein, il y en a, après, ça, c'est vrai que ça vient dans le discours et l'entretien individuel. Il y en a qui viennent nous dire, voilà, j'ai plutôt mal ici, j'ai du mal à récupérer. Donc, c'est un travail collectif avec le staff, où à la fois, il y a les kinés, les médecins et moi, parce que je travaille aussi par rapport aux compléments alimentaires qui peuvent aider aussi à la récupération musculaire et la récupération générale aussi. C'est intéressant de les complémenter aussi.
Je pensais à ça, là. Quel est votre regard sur... on sait qu'il y a pas mal de... Enfin, pas mal. Il y en a quelques-uns de sportifs qui ont fait appel à des... Comment on appelle ça? Des centres... je connais même pas le nom. Type Merano. Voilà, Merano, ça paraît
très bon.
des centres... je sais pas si on doit dire... d'amincissement,
oui.
Je sais même pas comment on appelle ça, mais en gros, où quand on a des kilos en trop, on y va pour une période fixe, je sais pas, 7 jours, 10 jours, 15 jours, et on revient, en gros, on a perdu, je sais pas, 5, 10 kilos, je sais même pas. Mais quel est votre regard là-dessus? Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus durable et progressif, par exemple, pour un sportif? Parce que je me demande si un truc aussi violent, entre guillemets,
ouais.
je sais pas, par
drastique,
exemple, s'il perd 5 kilos en une semaine, est-ce qu'il va perdre aussi, par exemple, du muscle ou...
Ouais, alors, juste, c'est vrai que toute perte très importante de poids, alors, pour moi, ouais, il doit être hyper surveillé et justement, hyper, comment dire, contrôler les apports alimentaires. Moi, c'est vrai que... Alors, quand je reçois en consultation, j'aime pas parler de régime vraiment et de régime restrictif parce que justement, si c'est pour perdre du muscle, et là, quand je reçois beaucoup de sportifs, l'intérêt, c'est qu'ils gardent leur masse musculaire. Et donc, ce qui est important, c'est justement les apports protéinés pour éviter qu'ils perdent de la masse musculaire parce qu'il faut en même temps qu'ils puissent continuer leur activité physique. Après, ces types de centres d'amincissement et sur une semaine ou 15 jours, pourquoi pas si ça peut déclencher un effet booster pour perdre... Mais après, il faut faire une réintroduction très progressive parce que si vous remangez derrière comme vous avez mangé avant d'y aller, c'est clair que la perte de poids, vous allez reprendre quasiment pareil, voire plus. Il faut faire une réintroduction, ce qu'on appelle le rééquilibrage alimentaire hein, parce que, entre guillemets, je vais dire, c'est facile de perdre du poids. Moi, si on vient me voir en consultation, on me perd 10 kilos, j'enlève tout. Je vous enlève tout et puis voilà, vous avez perdu poids. Sauf que, un, le mec, il ne va pas avancer. De deux, voilà, il va perdre du muscle, il va être fatigué et puis il va être frustré, il va être énervé. et à un moment, voilà, il va se jeter sur tout et n'importe quoi. Le but, c'est justement de faire une répartition plus adéquate dans la journée et qui les apporte un peu, comme je disais tout à l'heure, des protéines le matin, du sucre l'après-midi avec deux repas principaux plutôt équilibré. Enfin, après, je vais pas rentrer dans le détail, je suis pas là pour faire une consultation, mais c'est vrai que voilà, plus adéquate, avec une activité physique à côté qui va faire en sorte qu'il va brûler les graisses. Et voilà, c'est un travail, si vous voulez, un peu pluridisciplinaire pour que il puisse perdre ce poids, ouais, beaucoup plus adéquate et dans la durée,
de manière plus naturelle,
voilà, plus naturelle et plus dans la durée.
On sait que les clubs aiment tout contrôler de la vie des footballeurs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils croient, ce qu'ils espèrent. Je ne sais pas quelle formule utiliser. Du point de vue de l'alimentation, c'est certain qu'ils peuvent contrôler le repas du midi. Parce que généralement, s'il y a une ou deux séances, ça dépend des différences culturelles, etc. Mais le repas du midi est assez simple à faire de manière collective. Il y a de plus en plus de clubs qui soit obligent, soit encouragent très fortement, on va dire comme ça, les joueurs à prendre le petit déjeuner aussi à l'arrivée, et donc venir un petit peu plus tôt avant l'entraînement et prendre un petit déjeuner. Par contre, il y a un repas qu'ils ne peuvent absolument pas contrôler hors jour de match, parce que ça c'est important, c'est le repas du soir.
Ah oui, hors jour de match, oui, tout à fait.
Ouais.
Ah oui, le soir dans la semaine, tout à fait.
C'est ça. Mmh. Et là, on touche à quelque chose qui est du domaine privé. Sensibiliser le joueur, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aussi sensibiliser les entourages ? Donc pour un jeune joueur, ça peut être par exemple la famille. Pour un joueur un peu plus âgé ou pas forcément, hein, ça peut être le conjoint, ça peut être...
voilà, mais largement, largement qu'il faut sensibiliser.
Et ouais. Est-ce qu'il faut le faire ? Et est-ce que les joueurs sont réceptifs à ça ? Parce que c'est pas forcément évident de dire, bah écoute, tu vois, ce soir, enfin, les soirs, il faut pas que tu fasses n'importe quoi. Si t'es pas habitué à cuisiner, que tu sais pas comment on fait, que voilà, ce serait peut-être bien que la personne qui cuisine chez toi... bah, viennent me rencontrer, que j'explique un peu ce qui est bon de manger pour toi, dans le but que tu sois performant au quotidien.
Ah ouais, non, mais ça, c'est... vous avez touché du doigt, j'ai envie de dire, la problématique que j'ai pu rencontrer dans mon domaine, hein, voilà, au club, parce que, encore une fois, certaines personnes vont être réceptives et d'autres sans doute un peu moins. Et ce qui s'est passé au club pendant que j'étais à l'OM, c'est vrai que j'étais contente, j'étais ravie parce que j'avais réussi, mais c'était qu'à partir du mois de mars et vu que je suis sortie en juin, ça n'a pas duré longtemps. J'ai pu mettre en place des ateliers cuisine en fait pour justement leur apprendre à pouvoir cuisiner de chez eux. Parce que ces pauvres gars... qu'on assiste depuis tout petit et qu'on assiste même, comme vous dites, au club. Ce sont des enfants, hein, franchement. Je suis désolée, hein, mais oui, on contrôle tout sur le footballeur, mais des fois, ça ne rend pas forcément service, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que les ateliers cuisine, voilà, ils étaient super contents. C'était une première, en fait, au club. Et j'avais commencé à mettre ça avec les plus jeunes qui arrivaient du centre de formation. Voilà, ils avaient 18 ans. Et voilà, c'était génial. J'avais mis en place ça avec le chef cuistot. On leur avait appris à faire des omelettes, à faire des cuire des pâtes, à faire un peu des légumes. On leur a montré que ce n'était pas si compliqué. Et après, chez eux, on leur a appris, on leur a fait faire et on leur a fait manger, on leur a fait goûter. Donc, en fait, c'était vraiment, c'est vraiment un bon moment partagé. Et tout en leur expliquant à quoi ça leur servait. Donc, c'est vrai que j'avais préparé un petit exposé vite fait pour les sensibiliser à comment bien manger chez le footballeur et pourquoi, etc. Et après, avec le chef, il leur avait expliqué les gestes, etc. Et c'est vrai que j'étais ravie. En fin d'année, j'ai rencontré des parents qui m'ont dit « Ah, mon fils, il m'a fait ça, il m'a fait une omelette. » C'était un exploit, alors que c'est rien du tout de battre deux œufs dans une poêle. Sauf que, le sportif, le footballeur, il est très vite mis dans un centre de formation où là, on lui fait à manger le matin, le midi, le soir, parce qu'il dort sur place, il est en internat, il est voilà. Et après, de là, s'il se retrouve dans un appartement, dès qu'il a l'âge d'être en appartement tout seul, il fait comment, à part de commander à part de commander sur Internet des repas, et voilà. Alors, soit il a la chance de trouver vite une femme, soit, voilà, quoi. Soit aussi, il y en a qui sont très adeptes de prendre des chefs cuisiniers à la maison, ils n'ont pas envie de s'embêter, et puis voilà, il y a le chef cuisinier qui fait à la maison. Et moi, c'est vrai que j'ai été en relation avec des chefs cuisiniers de certains joueurs pour pouvoir justement lui dire, voilà, lui, il doit manger ça, comme ça, etc. Et ça, c'était vachement bien, c'était un travail d'équipe, parce que comme moi, je faisais le poids, je faisais le suivi du poids et de la masse grasse chaque semaine de l'équipe, j'étais plus à même de dire attention là, le soir, attention aux apports, voilà. Mais encore une fois, pour retourner sur votre question, forcément, c'est pas pareil chez tout le monde. Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est bon, je sais. Et d'autres, ils vont me dire, oui, qu'est-ce que je pourrais. Donc voilà, il faut être là pour les accompagner. De toute façon, on est là pour. On est à leur disposition. Et puis, celui qui a envie d'avoir de, qui a envie d'être accompagné, vous savez, on ne peut pas satisfaire tout le monde.
Et sur le suivi du poids et de la masse graisseuse, oui. C'était quoi? C'était un contrôle tous les jours?
Alors, moi, c'était un contrôle 2 fois par semaine du poids et toutes les 3 semaines de la masse grasse, parce qu'on sait que la masse grasse, elle n'évolue pas du jour au lendemain comme ça. Hein. Voilà. Et alors, je sais que dans certains clubs, c'est tous les jours, ils doivent monter sur la balance et rendre des comptes. Il y en a certains clubs où ils vont mettre des amendes quand tu prennes 1 kilo. Et nous, ce qui était mis en place, c'était 2 fois par semaine la prise de poids et, voilà, et la masse grasse tous les 3 semaines.
On vous a vu aussi présente en préparant l'épisode. Je suis tombé sur des banques d'images professionnelles auxquelles ont accès les journalistes. On vous a vu sur le terrain, sur des séances d'entraînement. C'est marrant parce que dans l'imaginaire comme ça, quand on dit une nutritionniste auprès d'un club, on n'imagine pas la personne mettre la tenue de l'Olympique de Marseille, aller sur le terrain, discuter avec les joueurs, etc. Qu'est-ce que vous observez à ce moment-là et quel feedback éventuellement vous demandez aux joueurs que...
Alors, ça faisait partie du job hein, de porter les boissons. En fait, ce qu'on faisait, c'est que je préparais les boissons pour l'entraînement. Donc là, on avait 2 glacières, une remplie d'eau et une remplie de 500 ml de... Ils avaient droit à 500 ml par entraînement de boissons sucrées, comme je disais tout à l'heure. Et je m'occupais de ça pour que quand entre chaque exercice, quand ils ont des temps de pause, on est là. Hein, c'est un peu de l'assistanat, hein, je suis désolée de dire ça, hein, mais pour leur donner à boire et voilà. Et après, c'est vrai qu'après, on va donner un peu plus, on va être un peu plus insistante sur la personne qui a tendance à ne pas boire pour justement qu'elle n'oublie pas, parce que pour lui faire comprendre que l'hydratation, c'est hyper important, parce qu'il y en a qui sont capables, malheureusement, d'oublier de boire ou de se dire j'en ai pas besoin, etc. Sauf qu'on sait que le manque d'hydratation entraîne des blessures et des tendinites, une mauvaise récupération musculaire, etc.
Je pensais à ça également. Comme on est à Marseille, il n'est pas rare qu'il fasse très chaud, notamment, je pense, sur les mois de début et de fin de compétition. Donc, clairement, ça peut être mai-juin et août-septembre. C'est pas rare qu'on dépasse les 30 degrés au moment de la performance. Il faut aussi adapter, j'imagine, en termes d'hydratation, les besoins. Alors, il y a ces fameuses pauses fraîcheurs, comme on dit en France, qui permettent déjà de faire un premier point au bout de 20-25 minutes et avant la mi-temps, etc., etc. Les besoins sont nettement supérieurs dans ces cas-là.
Ah ouais, quand il fait très très chaud. En fait, ce qu'il faudrait faire, on n'a pas forcément, je suis honnête, on n'a pas forcément appliqué. C'est vrai qu'en temps de grosse période de chaleur, en fait, il faut augmenter la boisson sucrée en apport de sodium, parce qu'on se dépense beaucoup plus. Et à l'inverse, quand il fait plus froid, il faut augmenter la boisson sucrée en concentration de glucides. Parce que finalement, vous avez tendance à lutter contre le froid quand il fait très froid. Et donc, une dépense énergétique beaucoup plus importante. Mais en temps de grosse chaleur, canicule et tout, on dépense beaucoup plus. On se transpire beaucoup, donc on lâche beaucoup plus de sel. Et en fait, il faut que la boisson sucrée soit plus salée, en fait.
D'accord, ok, très bien. Parmi les éléments perturbateurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a les horaires des matchs. Comme pour le sommeil, on dit souvent que pour une alimentation saine, on va le dire comme ça, il y a les bienfaits de prise de repas à heure régulière chaque jour, tout au long de la semaine. En gros, si vous avez l'habitude de manger à midi et demi, c'est bien de manger tous les jours à midi et demi, parce que ça crée une routine aussi pour votre corps. Le problème des footballeurs, c'est qu'ils ont un match parfois à 13h, parfois à 15h, parfois à 17h, parfois à 18h30, parfois à 21h. J'imagine donc que pour la routine, on peut un peu oublier. Ça, c'était la première question. Et la deuxième qui va à l'intérieur dans un cas un peu plus spécifique. Quand les matchs ont lieu à 13h, donc c'est le dimanche en France en Ligue 1, donc il y a la fameuse règle des 3h. Donc le repas brocoli, riz, filet de poisson se fait à 10h. Et s'il est fait à 10h, ce repas-là, ou peut-être 10h30 ou 11h, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on petit-déjeune au réveil?
Alors, moi, ce qu'on avait fait, c'est que... Alors, quand le match est à 13h, bon, déjà, pour votre première question, c'est vrai qu'avoir des horaires et une routine pour l'alimentation, ça peut être bien, forcément, pour l'organisme. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il faut écouter aussi son corps, sa faim et la personne, le sportif professionnel, il n'est pas comme tout le monde, en fait. Alors, le footballeur, peut-être, oui, il a les mêmes horaires d'entraînement. Et peut-être que, voilà, dans l'année, ils arrivent à avoir à peu près, bon, des fois ça change, mais toujours la même routine d'entraînement et tout ça. Mais quand on arrive au match, comme vous avez dit, que parfois on peut jouer à 21h ou à 13h ou à 15h ou à 17h, il faut s'adapter. Et donc, la question de 13h, non, on ne va pas mettre les brocolis, le riz et le poisson à 10h30. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je faisais un brunch, en fait, et je faisais sucré salé, tout en respectant des aliments, bien sûr, digestes. Donc, j'étais entre le petit-déj, comme j'avais l'habitude de faire, omelette, jambon, fromage, du pain, du bon pain de qualité, des fruits, tout ça.
C'est quoi du bon pain de qualité ?
Du bon pain de qualité, ça peut être du pain complet, du pain aux céréales, du pain sans gluten pour celui qui ne tolère pas le pain blanc. Mais en tout cas, on évite la baguette blanche industrielle. Et voilà, le pain de mie, non, pas de pain de mie. Ou en tout cas, du pain de mie maison. Et ensuite, pour les céréales, certains bien des céréales. C'est vrai que moi, les céréales, vous savez, aujourd'hui, le rayon de céréales, il est un peu à brûler. Hein. Bon, en fait, je m'éparpille un peu, mais c'est vrai que pour parler des céréales, je trouve que le rayon de céréales, il est complètement... c'est une catastrophe pour les enfants. Il est préférable de manger soit des flocons d'avoine ou du muesli sans sucre ajouté de préférence. C'est déjà naturellement très, très sucré. Pour peu qu'il y ait des copeaux de chocolat noir, moi, c'est ce que je mettais, des muesli avec des copeaux de chocolat noir ou des fruits rouges dedans. Il y a déjà, gustativement, on s'y retrouve. Et puis voilà, c'est plein de sucre déjà. Donc voilà, un brunch avec sucré salé. Et aussi, on mettait quand même, parce qu'il y en a qui sont toujours, ils ont toujours leur coutume. Et ils ont besoin de manger des pâtes ou du riz. Donc en fait, on mettait quand même les pâtes ou du riz, même si c'était 10h, 10h30, avec quelques blancs de poulet. On peut mettre ça aussi. Et on adapte toujours en fonction des horaires.
Donc, on fait un petit déjeuner oui. Ensemble, voilà, clairement. Et après le match, quand on joue à 13h, parce que quand on joue à 21h, si on joue à domicile, on va se coucher normalement, si tout se passe bien,
oui.
Pas trop longtemps après.
Ouais, pas trop longtemps.
Ouais. Si ça se passe bien.
C'est un grand mot, ça. Vous savez que les footballeurs, ils n'arrivent pas à dormir après le match.
Bien sûr. Mais là, par exemple, si on se dit 13h, le match finit à 15h au sens très large. Après, il y a encore une bonne partie de la journée. Donc, j'imagine que l'alimentation post-match n'est pas la même que si on joue à 21h.
Eh oui. Donc, non, mais quand bien même, on leur donne quand même un repas toujours. Toujours, il y a toujours le repas d'après-match, hein, après, que ce soit la pizza ou le côté plaisir. Mais la plupart du temps, ça dépend dans les clubs. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire des espèces de pasta box ou du riz box fait par un chef. En tout cas, chez nous, c'était comme ça. Hein. C'était, à part le chef cuisinier, c'était ni commandé, ni ramené par je ne sais qui. C'était fait propre soin. Et c'est vrai que des aliments plutôt frais. Et pour refaire, vous savez, hein, ce sont des glucides, hein, des recharges glucidiques derrière l'effort, hein, qui est hyper important pour la récupération. Hein. Il faut absolument recharger l'organisme. Donc, oui, des pâtes, du riz et des protéines avec un peu du poulet. Ça peut être du poisson, du saumon. Voilà, on ne regarde pas forcément, mais oui, des glucides en tout cas, un apport de glucides.
Vous l'avez évoqué succinctement tout à l'heure, les compléments alimentaires.
Oui.
Donc généralement qui sont pris pour des carences, sur des éléments très précis, ou peut-être pas seulement pour des carences. Comment vous l'avez appliqué auprès des joueurs ? Est-ce qu'il existe des compléments alimentaires pour toutes les carences ?
Non. Alors, la micronutrition, donc c'est ce qu'on appelle les compléments alimentaires, ce sont des micronutriments que, en fait, le sportif peut être en carence, ou même la personne lambda. Hein, la personne lambda peut être aussi carencée, parce que, voilà, même si vous mangez aujourd'hui, vous avez beau manger des fruits et légumes, vous savez que vous avez une alimentation variée et équilibrée aujourd'hui, malheureusement, vous pouvez quand même être carencé. Pourquoi ? Parce qu'une orange, elle n'a pas du tout la même teneur en vitamine C qu'il y a 50 ans en arrière. Donc, en fait, c'est très compliqué, à la limite, de manquer de rien, en fait. C'est compliqué, entre les perturbateurs endocriniens, etc. Et le sportif, encore plus, de par sa dépense énergétique, peut se trouver très carencé, en fait. Alors, il y a des outils de travail. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de micronutrition, des outils de travail qui permettent de voir s'ils sont carencés. Il y a les bilans sanguins aussi, hein, qui sont effectués. Et après, ben oui, on complémente avec des oméga-3, des anti-inflammatoires naturels, basés avec du curcuma, du gingembre, des antioxydants. C'est pas forcément un complément alimentaire, mais c'est vrai, j'avais mis en place des smoothies, moi, après l'effort, pour justement... des fruits frais mixés, et je leur mettais à chaque fois, après l'entraînement, un petit verre. C'est toujours sympa. Alors ça, par contre, ça leur plaisait. Hein. C'est très gustativement. Ils étaient super ravis. C'était très bon. C'était fait... voilà, tout était frais en plus. Hein. Donc ça, et puis voilà, pour les compléments, c'est un peu... Voilà, c'est à chacun... c'est pas la demande, mais vous savez, il y en a, ils vont venir vous dire... C'est encore une fois pareil, hein, c'est comme tout, finalement. Il y en a qui sont des adeptes, mais très adeptes, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Là, moi, je veux rien. Et un autre qui va me dire, ah, j'aimerais bien prendre ça, je pourrais avoir ça, Cécile, il y a ça. Par contre, la seule obligation qu'on leur demande et qu'on demande à finalement à n'importe quel sportif, c'est de nous demander ce qu'ils veulent prendre et de ne jamais prendre tout seul de leur côté, parce qu'il y a compléments alimentaires et compléments. C'est-à-dire sur Internet, vous trouvez tout et n'importe quoi. Et par contre, le contrôle antidopage, ben ça, il faut faire attention, hein, parce que... Il faut absolument avoir un complément alimentaire avec un label antidopage, sinon ça ne va pas le faire, quoi.
On arrive au bout de l'entretien, Cécile. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ? Soit vous avez un nom en particulier à me soumettre, ou ça peut être plus simplement un métier lié de près ou de loin au football que vous aimeriez que les auditeurs et auditrices puissent découvrir, redécouvrir, approfondir, etc.
Franchement, dans le football, c'est un jeune homme qui s'appelle Anthony Santiago, qui est un super gars, et en fait, qui est analyste vidéo. Et je trouve que c'est un travail dans l'ombre, comme beaucoup d'autres. Mais si vous saviez, on ne peut même pas imaginer, je pense... Enfin, le boulot qu'il y a derrière, quoi, et comme cela peut apporter à l'équipe, en fait. C'est énorme. Et franchement, je pense que ça serait hyper intéressant de l'entendre, quoi.
Très bien. Eh bien, je lancerai une invitation à l'Olympique de Marseille et voir s'ils accepteront.
Il n'y est plus, justement.
Ah, il n'y est plus, d'accord, non, très bien.
Il n'y est plus, donc je pense que ça sera même plus facile.
D'accord. Et maintenant, il travaille à la FIFA, visiblement.
Exactement. À la FIFA.
Ok, très bien.
Ouais.
Et ben c'est parfait, je lancerai l'invitation. Merci beaucoup, Cécile Capdeville, pour votre disponibilité et pour la qualité de cet entretien.
Merci beaucoup, bonne journée.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.